Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Diane de Poitiers, qui est veuve alors, vient de dire à François Ier, qui s'inquiétait de l'attitude de son fils Henri, « Fiez-vous à moi, j'en fais mon galant. » Il est prévu que Henri épouse Catherine de Médicis, qui est très très riche, qui est la cousine du pape Clément III, et donc on va célébrer ce mariage. Il a lieu, non pas à Paris, mais à Marseille. Qu'est-ce qu'on peut dire de Catherine ? Elle a 14 ans. Physiquement, elle a un visage assez poupin, des yeux proéminents. Elle a des mains superbes. Mais elle est tout à fait consciente de son ascension prodigieuse. Alors, elle fait la modeste et elle va le faire très longtemps, jusqu'à la mort de son mari. Donc, en tout cas, elle a l'art de se dissimuler, de ne pas se faire remarquer, d'essayer de se faire aimer de tout le monde. Elle est fine, très intelligente, très cultivée. Elle parle le latin, le grec, l'italien, le français. Elle est même versée en mathématiques, en astrologie. Alors, elle plaît à François Ier, beaucoup moins à Henri. Depuis le baiser de Bayonne, je ne sais pas si vous vous souvenez, Diane de Poitiers l'avait embrassée. Depuis le baiser de Bayonne, son cœur appartient à Diane. Et dans le royaume, alors, c'est l'agitation à cette époque-là. Pourquoi ? Ça va durer d'ailleurs, c'est à cause des protestants. François Ier essaie bien des discussions, mais des deux côtés, finalement, on campe sur ses positions. Charles Quint, lui, je vous rappelle qu'il est roi d'Espagne, empereur, que ses états sont tellement nombreux qu'on dit que le soleil ne se couche pas dessus. Donc Charles Quint reproche à son beau-frère. Pourquoi son beau-frère ? Parce que François Ier, veuf de Claude de France, avait épousé la sœur de Charles Quint. Et il trouve que François Ier, il est bien large d'esprit. Lui, il a supporté comme ça d'avoir des protestants dans son royaume. Il dit « l'Europe doit rester catholique ». Alors, de puissantes armées impériales menacent la France, parce que la France est trop large d'esprit. Qui est à la tête, à ce moment-là, de l'armée ? C'est Montmorency. Il a le titre de lieutenant général. Alors, Charles Quint franchit les Alpes. Vous allez me dire pourquoi les Alpes, puisque c'est le roi d'Espagne. Oui, mais il possède aussi l'Italie. Avec 50 000 hommes. Montmorency pratique la politique de la terre brûlée. Vous savez, on brûle tout sur son passage, comme ça les armées ennemies ne peuvent pas se ravitailler. Les villes et les villages de Provence sont anéantis, les puits sont empoisonnés. Charles Quint arrive à avancer jusqu'à Aix, mais il doit s'arrêter bien sûr parce qu'il n'y a pas de vivres. Les Français reprennent espoir, alors se produit un événement imprévu bien sûr. C'est que le dauphin François, qui joue à la paume, c'est l'ancêtre du tennis, il est en sueur après son match, il demande un verre d'eau, on lui donne un verre d'eau glacé, et vous avez deviné, il meurt, il est frappé de congestion. Il avait 19 ans. François Ier, lui, il est persuadé que l'écuyer n'a fait qu'exécuter l'ordre de Charles Quint d'empoisonner son fils. En fait, on n'en sait rien du tout. Le 4 septembre 1536, Henri, donc devient dauphin de France, il entre pompeusement à Avignon. Il a 17 ans, il montre une vigueur absolument exceptionnelle. Si au point de vue du corps il est très très développé, on ne peut pas en dire autant de l'esprit. Il n'a pas l'esprit vif, il n'a pas l'esprit hardi, il n'a aucune curiosité intellectuelle, c'est quand même ennuyeux. Bref. Il raisonne très lentement, si bien que lorsqu'il dit « prendre parti », il hésite longuement. Et puis son opinion se forme pratiquement toujours avec le secours de quelqu'un. Retenez bien ça. Alors, quand la décision est prise, il s'y accroche, il est absolument obstiné. Une fois qu'il a accordé son amour, sa confiance, son admiration, sa haine, ça n'est jamais remis en question. François Ier, qui ne l'aimait pas beaucoup, parce que ce n'était pas le futur roi, bien sûr, on peut dire qu'il ne l'aime pas mieux maintenant. Il reporte toute son affection sur l'enfant qui suit, Charles, qui devient donc duc d'Orléans. C'est le titre donné, vous le savez, à tous les frères de roi, enfin aux premiers frères des rois. Alors on revient à la guerre. Charles Quint, donc, voyant la victoire lui échapper, tente une négociation. C'est raté. Le 14 septembre, il ordonne alors la retraite. La France est sauvée. Comme d'habitude, la trêve permet à la cour de reprendre une vie de fête. Catherine de Médicis, elle ne se sent pas du tout le cœur à la fête. Elle sent qu'elle aura bien des difficultés à se faire accepter en tant que reine. Si encore elle avait un fils. La cour s'était déjà indignée de l'avoir duchesse d'Orléans. Mais alors là, la voilà dauphine. Comment on va avoir cette dame-là comme reine? Cependant, ni son mari, ni le grand maître Montmorency, qu'Henri admire beaucoup, ne pensent à un divorce. Montmorency pense que cette Catherine-là, trop douce, trop rieuse, trop savante, n'a aucune chance de conquérir son époux, c'est vrai. La nature d'Henri l'appelle à une domination féminine, et elle, pour l'instant, elle en est capable, je dis bien pour l'instant. Elle en est incapable. Selon les idées de l'époque, le favori, c'est-à-dire Montmorency, il doit résoudre le problème. Alors il cherche pas loin, il songe à Diane. Son caractère le prédispose plutôt à jouer le rôle, elle, d'égérie. Mais c'est risqué, parce que la veuve exemplaire qui a 37 ans prend un amant de 17, eh bien ça s'expose aux fureurs des envieux, aux railleurs même, et aux satires. Mais aussi, quelle honte pour une Poitiers de se voir la maîtresse d'un homme marié à une femme moins bien née qu'elle. Montmorency invite le dauphin et Madame de Brézé, c'est Diane, chez lui à Écouen. Et c'est là que les choses se nouent. Diane a laissé un poème à ce sujet. Au regard du public, elle demeure la veuve du grand sénéchal, digne, pieuse et altière. Désormais, Henri ne s'habillera plus qu'en noir et blanc, c'est-à-dire les couleurs de Diane de Poitiers. Nous allons faire une première pause musicale. Diane aime la discrétion, elle aime le mystère et elle impose la chose à son amant. Mais on peut dire qu'elle exerce sur lui un pouvoir absolu. Et qui se rend compte de la situation et qui n'en est pas contente du tout? On pourrait penser que c'est Catherine de Médicis, mais pour l'instant, elle ne dit rien. Ah non, c'est la maîtresse de François Ier, la duchesse d'Étampes. Et c'est la guerre entre les deux. La cour choisit son camp. En 1537, on peut déjà discerner deux parties qui vont préfigurer les divisions qui seront désastreuses. Autour du dauphin, il y a la reine, Montmorency, les princes lorrains. Quand on dit les princes lorrains, C'est le cardinal Jean de Lorraine et Claude de Guise. Et puis Diane elle-même, bien sûr. François Ier, voilà qu'il est repris par son envie d'Italie. Vous savez que les rois français, Charles VIII, Louis XII et puis François Ier, donc disent qu'ils ont droit à l'héritage du duché de Milan en provenance du bon roi René d'Anjou. Donc à chaque fois, ces rois-là descendent en Italie pour essayer de le conquérir. Ça n'a pas marché sous Charles VIII, ça n'a pas marché sous Louis XII, et on va voir que ça ne marchera pas non plus sous François Ier. Donc il est repris par cette envie-là. Alors une armée qui est commandée par le dauphin descend jusqu'au Pô. Finalement, tout le monde en ayant assez de la guerre, physiquement et pour des raisons économiques, on signe une trêve. Le 10 février 1538, François Ier fait Montmorency connétable. Connétable, c'est le chef donc des armées. Hein. Or, à ce moment-là, il y a des tiraillements certains entre le clan de la favorite du roi et celui de Diane de Poitiers. Montmorency, qui faisait partie du premier clan, le délaisse pour servir finalement l'ami du dauphin. Catherine n'a toujours pas donné d'enfant au dauphin. Alors on dit cette fois-ci, franchement, faut divorcer. Hein. Claude de Guise propose même sa fille. Or les Guises, c'est une famille extrêmement puissante. Et Diane prend peur parce qu'elle dit, bon, je peux dominer Catherine de Médicis, mais est-ce que j'arriverai à dominer une fille belle, princesse en plus? Donc Diane soutient Catherine de Médicis. Cette dernière se jette auprès du roi, le supplie de ne pas divorcer, et François Ier lui dit « Mais non, 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 il n'en est pas question ». Diane se fait donc sa protectrice. Le 23 septembre 1539, le roi tombe malade. Il souffre de syphilis, d'ailleurs depuis l'âge de 17 ans. Mais il guérit. Il avait un abcès qui se guérit. La convalescence est longue. Un arrêt du 24 juin 1539 met l'hérésie protestante hors la loi. Alors on voit les bûchers flamber partout. Et puis en même temps, voilà que les Turcs veulent envahir l'Europe. Donc François met 5 armées sur pied. Et lui-même s'installe à Montpellier. Le dauphin assiège Perpignan. L'empereur Charles Quint se précipite pour aider cette ville. Mais la ville est bien défendue et elle résiste. Finalement, on ordonne la retraite. Et pour sauver l'honneur de Henri, Diane et ses partisans répandent le bruit d'une trahison de Madame d'Étampes. Madame d'Étampes, c'est la maîtresse de François Ier. Hein. Les intrigues continuent à la cour. Et après 9 ans de mariage, Henri et Catherine n'ont toujours pas d'enfants. Catherine, elle voue une véritable passion à son mari, qui pourtant lui est bien inférieur en intelligence. Elle se tourne alors vers les astrologues, vers les alchimistes, elle boit des tas de philtres. Diane, elle, participe à la chose parce qu'elle oblige Henri à coucher assidûment avec sa femme. Et enfin, le 16 janvier 1544, Catherine met au monde un fils, François. 15 mois après, c'est une fille, Élisabeth. Et il y aura 10 enfants qui vont se succéder. Figurez-vous que Diane prend de plus en plus d'importance et qu'elle estime que c'est à elle de prendre en main l'éducation des enfants. Et Catherine est complètement laissée de côté. Et pour l'instant, elle fait le dos rond, elle ne dit rien. En janvier 1547, meurt Henri VIII, le roi d'Angleterre. Le 11 février, le roi, François Ier, a des accès de fièvre. Mais ça n'empêche pas de continuer à chasser, d'aller de château en château. Le 12 mars, il est à Rambouillet. Le 29 mars, François Ier se rend compte de la gravité de son état. Il reçoit les sacrements, il renvoie sa maîtresse, il met son fils en garde contre les Guises. Henri, bouleversé, s'évanouit. François Ier meurt le 31 mars 1547. Henri II est roi. Il a 28 ans. Catherine, donc, porte le titre de reine. Diane ne perd pas la tête. Elle va augmenter sa fortune avec énergie, avec ténacité. Parce qu'il y a toute une légende concernant Diane de Poitiers. Mais ce n'était pas une dame aussi jolie que ça, hein. Bon, énergique, tenace, d'accord, mais aussi extrêmement rusée, très cupide. François Ier mort, Henri II s'installe à Saint-Germain. Il convoque celui qu'il a toujours admiré, c'est-à-dire Montmorency, et il lui confie un pouvoir absolument illimité. Déception de Diane, qui pensait être la seule à pétrir la volonté de son amant. Mais elle ne montre rien. Avec qui s'allier alors pour contrebalancer l'influence de Montmorency ? Elle ne cherche pas très loin, hein ? Aux Guises, bien sûr. Et on forme les conseils. Alors, Henri décide qu'il y aura un conseil des affaires, véritable siège du gouvernement. Alors, qui y a-t-il à ce conseil ? Le connétable, bien sûr, le comte d'Aumale, l'archevêque de Reims, le duc de Bouillon, qui est le gendre de Diane. Et bien sûr, Diane. Donc, ils sont cinq, là, à détenir vraiment le pouvoir. Et elle va essayer, Diane, de maintenir l'équilibre entre tout le monde. Le gouvernement constitué, la distribution commence. Il y a que la reine qui obtient des miettes. Ce sont les Guises qui vont s'entendre le mieux avec Diane. Ils mettent leur gloire au-dessus des richesses. Diane, elle reçoit les joyaux de la couronne, plus un diamant de 50 000 écus que l'on a arraché à Madame d'Étampes, la maîtresse de François Ier. Elle se saisit de tous les terrains vagues. Ce qu'on appelle les terrains vagues, ce sont des terrains dont on n'a pas retrouvé les propriétaires. Eh bien, Diane les prend tous. Quand je dis les prend tous, dans toute la France, hein. Puis, elle s'accapare des biens des protestants, les biens qui ont été confisqués aux protestants et aux juifs. Et puis, en plus, par-dessus tout ça, elle prend le château de Chenonceau. Le 26 juillet 1547, Henri est sacré à Reims. La cérémonie est absolument somptueuse. Le roi passe beaucoup de temps avec Diane. Il lui rend compte de toutes les affaires de l'État. Puis après ça, il lui joue de la cithare. Diane, elle, a exigé qu'il brûle ses lettres. Si bien qu'on n'a rien des lettres de Diane. On ne sait pas quel sentiment elle lui exprimait. En revanche, on possède des billets d'Henri II qui ne laissent aucun doute sur sa passion. Et la reine là-dedans. Elle feint en public l'ignorance. Elle fait toujours le dos rond. Elle affecte une extrême déférence envers sa rivale. Ses enfants n'appartiennent pas à la reine. Pour elle, ça n'est ni bonheur ni prestige d'avoir tous ces enfants-là. Diane, qui est gouvernante du royaume, veut l'être aussi des enfants. Elle choisit leur gouverneur et elle prend Monsieur Dumière. Qui est Monsieur Dumière ? Le propre cousin de Diane. Le conseil décide de marier le dauphin François. Avec qui ? Alors on cherche avec Marie Stuart. Alors qui est-ce ? Elle est reine d'Écosse, mais aussi une nièce des Guises. Elle arrive à la cour à l'âge de 4 ans. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Mais tous les
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie de Diane de Poitiers, qui fait partie maintenant du conseil de gouvernement avec Henri II. Il y a toujours des problèmes avec la papauté à l'époque, hein, puisque la papauté possède des territoires, donc est considérée comme un État. Le pape Paul III meurt le 10 novembre 1549 et lui succède le cardinal Del Monte sous le nom de Jules III. Il y a des problèmes, toujours. Le pape voulant des territoires que les rois ne veulent pas lui donner, bien sûr, et en particulier Henri II. Donc, il attaque le pape, il bat le pape. La favorite, elle s'occupe même des affaires militaires. Elle s'occupe, je vous ai dit qu'elle était au gouvernement, elle s'occupe aussi des bâtiments, elle s'occupe des impôts, elle s'occupe de tout. L'année 1554 voit de grands événements. D'abord, il y a la mort d'Édouard VI. Alors, Édouard VI, c'était le seul fils du roi d'Angleterre, Henri VIII. Et il est mort jeune, il était extrêmement malade. Donc, qui devient reine? C'est Marie Tudor, la première fille d'Henri VIII, très catholique, et évidemment, en plus, nièce de Charles Quint, parce qu'Henri VIII avait épousé en premier une sœur de Charles Quint. Alors, Charles Quint, à l'époque, il est fatigué et il songe à abdiquer. Mais avant ça, il ferait bien un mariage. Ça serait épatant si on mariait Marie Tudor avec son fils Philippe, qui sera le futur roi Philippe II. Le mariage a lieu. Et à l'époque, Henri, qui aime Diane, il veut sans doute s'amuser un petit peu. Il se précipite dans les bras de Nicole de Savigny, baronne de Saint-Rémy. Et il en a même un fils, figurez-vous. Eh bien, ce fils, c'est un lointain aïeul de la comtesse de la Motte, si ça vous dit quelque chose, dans l'affaire des colliers. Bon, ça passe, hein. Il revient à son amour pour Diane. Le 28 avril 1558, Marie Stuart, donc, épouse le dauphin François. Je rappelle qu'elle est la nièce des Guises, une famille extrêmement puissante qui ainsi se rapproche du trône. Elle sera peut-être reine un jour. Catherine de Médicis s'allie à ce moment-là à elle. À chaque fois, elle fait le dos rond, hein. Tandis que Diane conseille à Henri de se rapprocher de Montmorency. La lutte d'influence continue à la cour et à ses intrigues s'ajoutent les problèmes créés par les protestants. Les calvinistes nomment publiquement la favorite en disant qu'elle est adultère, que le roi très chrétien est adultère, que vraiment il faudrait qu'elle s'en aille de là. Bon, Diane, c'est un danger pour elle parce qu'elle vieillit. Elle se voit déjà délaissée, je rappelle qu'elle a 20 ans de plus qu'Henri II, hein, pour ne pas dire renvoyée. Si les protestants sont devenus vraiment un parti d'opposition, si bien que le 13 février 1557, Henri II demande au pape d'établir l'Inquisition en France. Le 2 juin 1559 paraît l'édit d'Écouens, qui est une véritable déclaration de guerre, si bien que aux protestants, il ne leur reste plus que ou la fuite ou la révolte. Pour appliquer cette loi, il faut l'accord des magistrats du Parlement. Je rappelle que le Parlement de l'époque, c'est une cour de justice. Le Parlement se fait tirer l'oreille. Alors Henri est furieux. Il se rend lui-même avec le connétable Montmorency et les Guises. Eh bien, les parlementaires ne prennent pas peur du tout et refusent toujours d'enregistrer cet édit. Alors le roi fait arrêter les conseillers du bourg et du fort, si bien que l'ombre des tribunaux de l'Inquisition s'abat sur Paris. Mais à ce moment-là, arrivent les ambassadeurs de Philippe II, roi d'Espagne. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Eh bien, Marie Tudor est morte. Il était marié à la reine d'Angleterre. Elle est morte. Donc, ils se cherchent une autre femme. Ils la trouvent. C'est la deuxième enfant d'Henri II et Catherine de Médicis, c'est Élisabeth de France. Il vient pour l'épouser. Le 28 juin commencent les fêtes et en particulier des joutes auxquelles le sportif Henri II va participer. Dès 1552, un astrologue qui s'appelle Luca Gaorico, il a annoncé au roi qu'il doit éviter tout combat singulier en champ clos aux environs de sa 41e année. Henri n'en est pas troublé du tout. Il ne songe qu'à prouver sa force et son adresse. La Lys est installée dans la rue la plus large de Paris. À l'époque, c'est la rue Saint-Antoine. Et ça se passe devant l'hôtel des Tournelles. Aujourd'hui, c'est la place des Vosges. Il y a 4 tenants du tournoi. Il y a 4 chevaliers qui vont s'affronter. Le roi, le duc de Guise, le duc de Ferrare et le duc de Nemours. Le roi est en noir et blanc, comme d'habitude, les couleurs de Diane. Il y a des spectateurs, bien sûr. Et au premier rang des spectateurs, il y a les 3 reines. La reine de France, Catherine de Médicis, la reine d'Espagne, sa fille Élisabeth, qui vient d'épouser Philippe II, et puis la reine d'Écosse, la petite dauphine Marie Stuart, et Diane de Poitiers au milieu d'elle. Les courses des 28 et 29 juin se passent le mieux du monde. Le roi bat tout le monde, il est très content. Le 30 juin, à 10h du matin, la chaleur est absolument suffocante. La reine arrive, elle porte une robe violette. Alors ça ahurit tout le monde parce que le violet, c'est la couleur du deuil des cours. Et elle est livide parce que elle croit aux prédictions. Le roi bat le duc de Savoie, le duc de Guise. Alors la reine lui conseille d'arrêter. Il n'y a pas que la reine, hein. Tout le monde lui dit qu'il fait chaud, qu'il a assez combattu comme ça et que ça serait bien qu'il s'arrête. Mais lui, il veut s'opposer au capitaine de sa garde écossaise, Gabriel de Montgomery. Pourquoi donc ? Eh bien parce que ce Montgomery a failli le jeter par terre dans une course précédente. Tout le monde déconseille au roi de poursuivre. Le maréchal de Vieilleville craint lui aussi la prédiction. Il dit qu'il n'endort plus, il le dit au roi, hein, qu'il fait des cauchemars, qu'il n'endort plus. Eh bien, le roi, qui a tout à fait confiance dans sa forme physique, lui ordonne de l'harnacher lui-même. Donc le maréchal s'y emploie, et le maréchal sans doute qu'il ne va pas assez vite. Le roi s'impatiente, il n'attendait même pas que le maréchal ait fini. Et là, vraiment on peut dire qu'il a prévu sa mort, parce que la courroie qui doit retenir la visière n'est pas bouclée. Le maréchal n'a pas eu le temps de la boucler, que le roi est parti au galop. Au second assaut, la lance de Montgomery soulève la visière qui était mal jointe, bien sûr, pénètre dans l'œil du roi et ressort par la tempe. Le roi glisse de son cheval en disant « Je suis mort ». Diane le suit des yeux. Elle ne le reverra pas. L'agonie dure 10 jours. Le roi décède le 10 juillet 1559. Dès le 8 juillet, un messager de Catherine de Médicis arrive chez Diane pour réclamer les bijoux de la couronne. Elle ne veut pas d'histoire, Diane. Alors, elle renvoie les bijoux. Elle demande pardon à la reine de ses offenses et elle lui offre ses biens et sa vie. Catherine de Médicis, bien sûr, ne veut pas revoir Diane, donc la cour lui est interdite. Elle exige qu'elle lui rende Chenonceau. En échange, elle lui donne le château de Chaumont. La duchesse de Valentinois, quand je dis ça, c'est Diane, hein, bien sûr, accepte sa disgrâce avec une dignité absolument exemplaire. Elle s'occupe d'administrer ses domaines. En 1564, elle fait construire une chapelle pour son tombeau à Annette et rédige son testament. Et dans son testament, elle donne des sommes extrêmement importantes pour servir à doter les jeunes filles pauvres d'Annette. La santé de la favorite semble absolument lui promettre une longue vie. Hein. Vous savez qu'elle montait à cheval tous les jours, qu'elle prenait des bains froids, d'eau froide, pour se maintenir en forme. Eh bien, finalement, elle ne résiste pas à une brusque maladie et elle s'éteint à Annette le 25 avril 1566. Elle a 66 ans et 4 mois. Au revoir à tous.
Thank you. Yeah.